On va prendre un texte des évangiles et le texte que je vais lire tout à l'heure avec vous se trouve dans l'évangile de Luc et on sera au chapitre 8 à partir d'un certain verset que je vais vous dire tout à l'heure. Donc c'est l'évangile de Luc. Alors Luc, c'est toujours très intéressant parce qu'on voit un Jésus qui est tellement proche de chacun, de chacune, qui ne s'inquiète pas tellement de ce que les gens qui ont le pouvoir pourraient penser, qu'il leur rentre dans le cadre, qui n'a peur de rien. Et puis on voit plein de compassion, un Jésus-Christ qui est plein de compassion, plein d'amour, et puis qui le démontre. Donc c'est vraiment l'homme parfait, la personne parfaite qu'on a envie de suivre. Et j'espère que tout à l'heure, ce texte va nous donner l'envie de le suivre et de comprendre cette parole. La parole que je prends, elle vous a vacciné, peut-être certains. Elle vous a immunisé. Et peut-être vous allez dire encore ce texte. Et encore ce texte, oui. Et j'assume. Enfin, pas moi plutôt, mais le Seigneur assume sa parole. Il en est responsable. Et je crois que cette parole, qui est la parabole dite du semeur, personne ne l'a dit, ça va. Cette parabole du semeur, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse. Je trouve d'une richesse, et elle est un miroir pour nos vies, pour nos âmes, pour l'état d'esprit dans lequel on est, et puis pour la réponse que Dieu aimerait qu'on lui donne, parce que lorsque Dieu nous parle, il attend une réponse. Dieu est un Dieu qui veut converser avec nous. Et il nous dit, c'est comme si à la fin de chaque histoire, chaque parabole, chaque événement de vie, il nous dit, mais qu'est-ce que t'en penses? Et puis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je suis avec toi, allez, dis-moi ce que t'en penses. Et parfois, on peut se plaindre en disant, Seigneur, la barre est trop haute, j'arriverai pas. Et puis, Dieu nous répond avec une parole spécifique qu'il peut nous donner, qu'il veut nous donner. Cette parabole des quatre terrains, certains l'appellent comme ça, les quatre terrains, je pense qu'elle est là aussi pour nous montrer qu'il y a un enjeu qui est très important sur le projet de Dieu et sur la parole de Dieu. Imaginons que vous êtes un investisseur, vous cherchez des entreprises, des idées, des start-up, peu importe, vous cherchez à mettre de l'argent parce que vous pensez que ça va marcher, c'est porteur de quelque chose. Eh bien Dieu, il est un peu comme ça. Je ne dis pas que c'est un businessman, mais il y a un petit peu un côté comme ça, où il veut investir sa parole, et là où il la met, il veut qu'il y ait un bon rendement, il veut que ça rapporte. Et donc cette parabole, elle est là pour nous montrer l'enjeu et l'importance que la parole de Jésus a, afin qu'elle produise quelque chose en retour pour Dieu. Et il veut investir. C'est un peu, on pourrait dire, c'est la parabole de l'investissement rentable, je ne sais pas si ça se dit, ceux qui ont fait les études d'économie, j'en sais rien, mais en tout cas, Dieu est un petit peu comme ça. À nous ce soir de mesurer la valeur de la parole de Dieu. Ce que dit Jésus, ce qu'il est, puisqu'il est la parole, eh bien, il y a une valeur extraordinaire, il y a une valeur ajoutée, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement une parole gentille ou sage, des fois elle n'est pas très gentille, ce n'est pas seulement une parole dite qui sort de la bouche d'un homme, mais c'est une parole qui a une valeur extraordinaire. Et j'en veux pour preuve, toi et moi, qu'en entendant sa parole, à un moment donné, on a vibré ou on est né de nouveau, comme une graine ou un œuf, la coquille de l'œuf qui commence à se fissurer, et puis on sait que quelque chose va sortir. Ou comme une semence plantée en terre qui va germer et ça sort quelque chose. Voilà, ça c'est la puissance de la parole. La parole de Jésus, elle est puissante, au point qu'elle est capable de régénérer, de faire naître de nouveau. Si vous allez en ville, et vous allez, je suis allé la semaine passée, j'avais un petit peu de temps samedi matin, je suis allé dans la cour du Collège Calvin, que vous connaissez tous, j'espère, Collège Calvin, et puis on va au fond de la cour, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des voûtes, comment on dit en architecture, là, des voûtes, comment ? Des voûtes, il y a des voûtes au fond de la cour, là, comme ça. Et puis vous allez sous les voûtes, et il y a encore, dans cette pierre, ça a été un petit peu restauré, mais ça existe encore, il y a la parole de Dieu. Il y a un verset ou deux versets en hébreu qui sont là, la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu qui est là. Combien d'élèves, combien de, je sais pas comment on dit, de lycéens, enfin, on dirait aujourd'hui des collégiens, combien de collégiens ont vu ces versets? Et certainement certains se sont dit, ah oui, cette parole, elle est vivante, elle est pour moi, en tout cas, des générations et des générations. Il y a ce verset biblique où on peut lire cette puissance de la parole de Dieu qui est là. On ne sait pas pourquoi Calvin a fait mettre ce verset ici, certainement pour pas qu'on les oublie. Et Jésus, qui a plein de personnes devant lui, dans cette période de son ministère, il y a des foules devant lui, peut-être 10 000 personnes, on ne sait pas exactement à ce moment-là, mais il y a beaucoup de monde, eh bien, il leur parle en parabole. Ça va bien, hein ? Il leur parle en images. Il leur parle en choses qu'ils connaissent. Il y a 47 paraboles dans les évangiles. 47, j'ai vu le chiffre. Je n'ai pas compté, mais on a compté pour moi. J'étais étonné, je me dis 47, attends, on va quand même regarder un peu. Je ne sais pas combien de têtes je pourrais en citer, mais il y a 47 histoires, des fois un verset, des fois une longue histoire, qui nous parle, qui est une image que Jésus donne, et qui nous parle soit de Dieu, soit du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à. Donc vous êtes dans un royaume, mais le royaume de Dieu est comme ça, comme ça. Et puis il utilise donc des images de la vie quotidienne des gens de son époque, rurale, un petit peu citadine, un petit peu économique, voilà, de ce que les gens connaissent, comme ça ils vont retenir. Et c'est génial ça, hein. Alors c'est vrai que c'était courant à l'époque d'utiliser des images, mais Jésus, c'est quand même un orateur, c'est Jésus quoi, hors pair, hein, extraordinaire. Quelle parabole vous pouvez me citer? Qui lève la main? Allez-y, oui. Ah, oui, Catherine. Les 10 vierges, exactement. Ouais, sur la fin des temps. Chantal. Oui. Voilà, exactement. Alors, Carole, on revient. L'homme riche, Lazare, exactement. Très bien. Oui, Marie-France. La perle, oui. Le trésor caché, je pense que c'est ça, tu penses à ça? Oui, trésor caché. Une autre? La brebis perdue. Le berger reprend, la cherche, la prend, la trouve, oui. Les talents, oh là là, elle fait peur un peu celle-là. Gilles? Ah tiens, il y a une belle animation sur YouTube, la parabole des deux maisons. Allons voir ça. Intéressant, hein? On a retenu ces textes-là. Et Jésus parle en parabole, et puis ce qui est génial, moi je trouve, c'est qu'il donne son histoire, et il y a un point. Mais si on veut, ce n'est pas le point final. Alors les amis de Jésus, qui sont les disciples, disent, mais dis-nous la suite. On veut comprendre la suite. Pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu nous dis cette histoire? Alors tu as cité la parabole de la brebis perdue, elle montre l'amour de Dieu, la passion pour Dieu, qui veut qu'aucune personne soit perdue. Il y a aussi celle du père extraordinaire, on pourrait l'appeler comme ça. Un père avait deux fils. Il y a l'aîné, il y a l'autre. Et l'autre, c'est le pire, hein, qui fait tout ce qu'il peut, les 400 coups. Et pourtant, quand il revient, le père l'accueille à nouveau. Il leur dit, le père, Dieu est un père. On imagine les auditeurs, pour eux, Dieu, c'était quelqu'un de... le législateur, la loi. Et Jésus leur dit, non, mais Dieu, d'abord, il est un père. Il ne dit pas qu'il n'est plus la loi, hein, mais il est un père, d'abord. Il y a aussi cette parabole qui est extraordinaire, la pièce de tissu neuve et le vieil habit. Le vieil habit. Jésus leur dit, vous ne pouvez pas prendre une pièce neuve, d'un habit, enfin une pièce d'un tissu, un tissu neuf, puis même mettre ça sur un vieil habit. Ça ne va pas, sinon ça va se déchirer. Il y en a un qui c'est pas la même matière, c'est pas les mêmes tissages, ça va se rompre. Alors les auditeurs, ils entendent ça, ils disent ah oui, on comprend, surtout les couturières, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire, écoute, dans ta vie, s'il y a tout qui est vieux, avec le royaume de Dieu, tu peux avoir un nouveau départ. T'as droit à un nouveau départ, mais faut remettre en question certaines choses, voire tout balancer, c'est même mieux. C'est pas une bonne nouvelle, ça, c'est extraordinaire. Avec Jésus, si on s'approche, mais sincèrement de lui, dans nos tripes, nos cœurs, il le dit, tu veux redémarrer avec moi, c'est possible. Mais tu lâches tout, tout ton passé, tout ton bazar, tes vieilles habits, tu les mets dehors. Amen. Amen. Ça, c'est une parabole pour moi parce que j'ai envie de garder mes habits des fois qui ne me vont plus. Et puis, de temps en temps, je dois vider mon armoire. Je ne sais pas si ça parle aux hommes, ça. Puis ma femme me dit, mais pourquoi tu gardes ça? Ou m'a eu dit, pourquoi tu gardes ça? Non, mais c'est mon habit. Voilà, parabole. Il y a d'autres paraboles, c'est vrai, cette maison construite sur le sable ou sur le roc. Et puis, il y a celle... Non, mais elle n'est vraiment pas actuelle, celle-là. Il y a l'homme riche qui accumule des réserves et qui est dans la force de l'âge. Ça, c'est dans Luc chapitre 12. Il amasse, il n'a plus de place. Où est-ce que je vais mettre toutes mes récoltes? C'était un exploitant. Où est-ce que je mets tout ça? Et puis Dieu lui dit, dis donc, cette nuit même, c'est ton dernier souffle. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton âme est perdue, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tous face à la mort, tous égaux. Tiens, ça ne serait pas pour 2019, cette parabole? Parabole de l'homme occidental, tiens, pourquoi pas, on pourrait l'appeler comme ça. Hein. Mais imaginez une parabole moderne, et je ne suis pas encore dans la parabole du semeur. Hein. Je me suis imaginé, mais ça serait quoi, Jésus, si tu étais là, en chair et en os, qu'est-ce que tu nous dirais comme parabole? Alors j'ai imaginé un truc, j'ai imaginé quelque chose. Vous savez, maintenant, ça se fait beaucoup, hein, de commander par Internet. Tu commandes 2-3 clics, ta paire de chaussures, je ne sais pas ce que vous commandez, tu commandes... je sais pas, des objets, etc. Galaxus.ch, ils m'en ont fait une belle cette semaine. Je commande un truc. Ma physio me dit, ah, ce serait bien que vous alliez un ballon de gymnastique, faire des exercices et tout. Je le commande sur Galaxus. Je fais pas de la pub. Qu'est-ce que je reçois? Je reçois une enceinte dernier cri étanche que je peux prendre sous mon bain et dans la piscine. Alors, je leur écris, je dis, c'est Noël, c'est trop bien. Qui a fait ça? Donc, un truc, mon ballon coûtait 40 francs, je crois. Mon enceinte coûte 200 balles, donc c'est trop bien. Non, j'aurais quand même écrit. Mais en fait, je me suis dit, mais tiens, il y a peut-être une parabole là, ou sur la prière. À partir du moment où on lance notre prière à Dieu, comme un clic à quelque part, eh bien, on est entendu du ciel. Il y a un exaucement qui est entendu, c'est ce que Dieu dit au prophète Daniel. Il dit, à partir du moment où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Mais il y a eu des résistances. Alors là, en l'occurrence, j'ai eu une résistance. C'était la négligence d'un employé ou d'un robot. Je ne sais pas, peut-être un robot qui s'est trompé, un robot qui range. Mais peut-être là, il y avait pour moi une parabole où Jésus me disait, tu vois, quand tu pries, bah, t'es entendu. Ça vient vite. Après, il y a une histoire de transport, mais il y a un délai qui est des fois dans les mains de Dieu. Mais Jésus peut-être aurait pu dire ça. Alors, imaginez à votre travail quelle parabole Dieu pourrait vous donner. Parce que Dieu parle dans les choses de la vie quotidienne, là où on en est, à notre niveau, que tu sois banquier, que tu sois président, que tu sois simple employé, peu importe, Jésus veut nous parler. Et cette parole-là, encore une fois, elle change notre cœur, si on l'accepte comme telle, c'est-à-dire parole de Dieu. Elle change des vies. Alors moi, je pense que Genève a besoin de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Une parole qui change des vies, il y en a marre. Il y en a marre. J'aimerais que ça soit notre cri et notre prière en disant « Seigneur, il y en a marre. Il y en a marre. » Luc 4, verset 4 du chapitre 8. Samuel, je te prends dépourvu, il est où? Tu veux lire? Merci. C'est la version second 21.
Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance.
Amen. Merci Samuel. Quatre terrains qui montrent quatre personnes. Quatre personnes qui entendent la même chose et puis des réactions différentes parce que les cœurs, l'état d'esprit n'est pas le même. Quatre personnes, la première personne, la deuxième, la troisième, la quatrième, ou quatre situations. Cette parole pourrait dire, oui, mais ça c'est pour les non-chrétiens, ceux qui ne croient pas. Ils peuvent entendre un témoignage, l'évangile, et puis certains, tout de suite le doute arrive ou l'ennemi emporte la parole. Un deuxième dit, ah ben c'est génial, je reçois ça, il se réjouit, puis la première épreuve, paf. Alors, on pourrait dire que c'est pour les non-chrétiens, mais je pense qu'elle est pour toute personne. Ça c'est personnel, hein. Elle est pour toute personne qui peut entendre une parole de Dieu et que notre réaction va engendrer du fruit ou pas. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais on se comprend, j'espère. Quatre terrains, donc il n'y a personne qui peut dire « Ah mais moi je n'ai pas entendu ça comme il faut, c'est pour ça que j'ai mal réagi à cette parole ». Non, Dieu nous dit « Mais tu entends la même chose que tous les autres, la parole c'est la parole et tu l'as entendue ». Donc c'est déjà pas d'excuses, hein. Si on n'a pas de fruits ou pas beaucoup, non, on n'a pas d'excuses, on a tous la même parole. Une parabole qui montre encore une fois, parabole très moderne, qui montre encore une fois que ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'état de notre cœur et la réaction qu'on va y donner, la réaction qu'on peut donner à cette parole. Premier terrain, c'est versets 5 et 12. 5, la première partie de l'histoire, 12, le mystère qui est révélé, qui nous est révélé. 5, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tombe le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Alors là, ici, c'est intéressant parce que Jésus ne dit pas « Ah ben, ce semeur, c'était qu'un apprenti, il a mal fait son travail, c'est tombé à côté. » Non, il dit simplement « Voilà, ça, un cas de figure, la semence est là, et puis il y a une partie qui tombe, pas au bon endroit, et les oiseaux en profitent. » On voit bien l'image. Verset 12, l'interprétation. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On revient à l'importance de la parole. Une parole peut sauver, sauve la personne. Croire et sauver. Une parole suscite la foi. Un témoignage, une parole prophétique suscite la foi et sauve. Sauve. Ceux qui sont le long du chemin, le diable arrive. Alors là, on est confronté à une réalité spirituelle. Peut-être qu'on l'avait oublié celui-là. Il existe quand même. Est-il puissant? Est-il fort? Je ne réponds pas à la question. Je dis juste qu'il est vaincu. Mais que parfois il essaye de voler encore ce qu'il peut essayer de voler. Mais le verdict ou le jugement a déjà été prononcé contre lui. L'ennemi, l'oiseau qui cherche à s'emparer de la semence, je pense un des oiseaux dans nos pays, en Suisse, qui peut être là, c'est le doute. Le doute, si vous voulez, ma définition du doute, c'est un terroriste qui essaye de détourner l'avion de sa trajectoire, ou de sa, comment on dit, sa voie. Le doute arrive et il cherche à détourner. C'est un terroriste. Donc un terroriste, il faut le traiter comme tel. N'est-ce pas? Il faut y aller franchement. N'est-ce pas? On ne doit pas faire ami-ami avec un terroriste. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, on peut les évangéliser, d'accord, mais je parle là, en tout cas, de l'attitude ici. Le doute, on se doit de le repousser. Quelles sont les armes que Jésus nous donne? Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu fataliste cette parabole. Les oiseaux arrivent, on ne peut rien faire. Non, ce n'est pas vrai. Jésus nous donne des armes face au doute. Ce doute qui veut nous faire croire qu'il ne vient pas de l'adversaire, mais de nous-mêmes. Alors, il y a une partie, peut-être, on peut douter par notre raisonnement, remettre en question Dieu. Mais il y a un doute qui vient vraiment de l'ennemi. Et puis, la plupart des doutes finissent en isme, relativisme, n'est-ce pas? On relativise, oui, mais. Vous voyez, toute phrase qui commence par oui, mais va entraîner un doute par rapport à la foi, etc. Et je pense que là, on doit être vraiment vigilant. Si Dieu a dit les choses, et si elles sont parole de Dieu, alors c'est un témoignage qui est vrai, qui reste pour les siècles des siècles, qui ne va jamais passer. C'est ce que Dieu a dit. Quand Dieu nous dit qu'il nous aime, que nous sommes ses fils et ses filles, vous serez pour moi des fils et ses filles, on n'a pas à remettre en doute cela. Oui, mais je viens de pécher, pasteur. J'ai entendu ça. Je viens de pécher, je ne m'en sors pas. Oui, mais ça ne remet pas en question ton statut de fils et de fille. On peut demander pardon, et là, il le faut, absolument, sans tarder. Mais le doute est un terroriste à éjecter, à mettre dehors. On fait partie des forces d'intervention, coup de poing, n'est-ce pas, face au doute. Vous êtes avec moi? Vous avez laissé le doute gagner du terrain ces derniers temps, aujourd'hui? Attention, hein, je vous ai à l'œil, pas moi. Hein. Qui est ton ennemi? Celui qui veut faire douter du plan de Dieu. Il y a un plan de vol qui est là, il y a une destination à atteindre, aller jusqu'au bout, et le doute ne doit pas nous faire dévier de la route. Prions, résistons. On est évangélique, mais on est aussi protestant. Proteste contre le doute. C'est dans l'ADN, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On proteste. Ces protestants, ils ont à la base protesté contre des doctrines. Prendre le bouclier de la foi, faire un choix. Élie, le météorologiste de la foi, Élie, le prophète, prie, il ne veut pas se laisser influencer par le doute. Ça fait 3 ans en tout cas qu'il n'a pas plu, et il prie Dieu de remettre un nuage de pluie. Un tout petit nuage arrive, vous connaissez l'histoire, j'espère. C'est résumé dans Jacques chapitre 5, qui nous dit qu'il était un homme de la même nature que toi et que moi. Merci Seigneur. Et puis faire confiance à cette parole. Mais pas bêtement. Vous savez, quand les oiseaux viennent, ils cherchent à voler la compréhension de la parole de Dieu aussi. Hein, la Bible dit que Dieu veut racheter notre intelligence. Et les oiseaux ne doivent pas leur laisser la place. Et c'est dans le cœur qu'on croit, mais notre intelligence, quand elle y participe, alors ça devient du béton, quoi. Ça devient du solide. Que nos intelligences soient renouvelées. Deuxième terrain. Alors celui-là aussi, il est intéressant. Deuxième état d'esprit ou de cœur, versets 6 et 13. « Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle l'eut poussée, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. » Et puis l'interprétation, verset 13. « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. » Et abandonne au moment de l'épreuve. Ah ah, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais au moment de l'épreuve, quand il y a l'épreuve, il dit ici qu'il y a un risque d'abandon. Seigneur, j'arrête. Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, c'est trop pour moi. Moi, je l'ai déjà dit, hein. Pas vous, mais ça m'arrive. Mais je me reprends après, je dis non, 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 Seigneur, m'écoute pas. Ne m'écoute pas. Voilà, deuxième terrain ici. Là, il y a une prise tout de suite, hein, ça germe, etc. Mais il y a un manque d'humidité. Le sol est pierreux. Problème, pas de racines. Une plante, un arbre qui n'a pas de racines, ça ne va pas loin. Alors, quand j'étais aux Antilles, il y a bien des années, en arrière, là maintenant, c'était au siècle passé, eh bien, je suis arrivé la première fois directement après un ouragan. un ouragan dont les forces, enfin les vents, la vitesse du vent avait été calculée avec des pointes jusqu'à 300 km/h. Hein, chez nous, quand il y a une bise à 20 km/h, on la sent, hein, mais imaginez 300, incroyable quoi. Et puis tout était rasé, quasi tout, sauf ce qui était en béton, les bâtiments. Et puis une des premières missions qu'on me donne, c'est, on me dit, tu vois là tous les palmiers, les cocotiers qu'il y a là, il faut les raser. Alors ils avaient tenu les cocotiers, il faut les raser. Je dis pourquoi, mais ils sont bien, ils sont parfaits, ils ont tenu le coup, c'est souple. Hein. Non, non, dessous, il y a plus de racines. Dessous, les racines sont fichues. En fait, les branches avaient tenu, le tronc souple avait tenu, mais dessous. Alors, le risque, c'est que ça se casse la figure sur une voiture, sur quelqu'un. Donc, il a fallu les raser, quoi. Palmiers, etc. Donc, c'était un premier travail que j'avais dû faire là-bas. Et ça me parle. Hein. Parfois, nos vies chrétiennes, elles n'ont pas assez de racines. Alors, du coup, face à l'épreuve, Seigneur, j'arrête. Seigneur, j'arrête. Mais les chrétiens matures, vous en êtes, n'est-ce pas ? Les chrétiens matures disent, ah, c'est juste une épreuve. La énième qui est devant moi, n'est-ce pas ? Et on se marre des épreuves parce qu'on sait qu'on a la solution. Non, je rigole. On passe par des temps difficiles, on passe par des épreuves, c'est sûr. Dieu est là. Mais les racines, c'est ce qui nous fait tenir dans l'épreuve. Et ça, c'est le deuxième terrain. Comment avoir des racines ? Hein ? On ne peut pas dire, ah, Seigneur, je veux des racines, puis c'est bon, ça pousse. Non, on est d'accord, ça serait bien, hein, peut-être. Hein, mais je ne sais pas. Non, eh ben, je pense que pour Jésus, il n'y a pas 36 solutions. C'est ouvrir la parole de Dieu, ouvrir la Bible, comprendre ce qu'elle nous dit, la saisir, l'aimer. Et puis, il y a des racines qui viennent de foi dans nos vies qui sont extraordinaires. C'est aussi un petit peu écouter le témoignage de ceux qui nous ont précédés ou de certains aujourd'hui. Ça nous fait un petit peu des racines, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Il y a les racines de l'histoire et ça, c'est formidable aussi. Mais la parole de Dieu, ça, c'est le truc par excellence, quoi. Quand vous dites, ah, quand même, chaque livre de la Bible parle de Jésus. Chaque livre de la Bible parle de Jésus. Mais non, c'est pas vrai, il est né que dans les évangiles. Non, Genèse parle de Jésus. Le prophète, l'Exode parle de Jésus. Celui qui te fait sortir du désert. Le Lévitique parle de Jésus. C'est lui ton grand prêtre, etc. etc. Jusqu'à l'Apocalypse, là-bas. Voir l'image du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Les amis, avoir des racines. Je connaissais une personne. Elle était géniale dans la présence de Dieu. Elle était capable de passer des heures dans la présence de Dieu, dans la prière. C'était fabuleux, hein ? À son contact, on était motivés pour la prière. Puis un jour, je lui dis, parce qu'elle se plaignait de quelque chose, je lui dis, mais est-ce que tu lis la Bible ? Comment tu lis la Bible ? Elle me dit, ah, j'arrive pas. Je dis, waouh, dis donc, les racines, c'était pas très profond, hein ? Il faut des racines. Alors, vie de prière et enracinement dans la connaissance et de la parole de Dieu. C'est celle-là même qui va tenir jusqu'au bout et à nous de la transmettre aussi à nos enfants. Ce que Jésus dénonce dans ce deuxième terrain, c'est une vie un peu trop émotionnelle quand même. C'est trop génial, l'évangile. Je suis pardonné et c'est bien, c'est trop génial. Il m'a sauvé, je ne vais plus en enfer. N'est-ce pas ? Ben oui, c'est génial. C'est trop bien quand même, hein ? Faut se réjouir. On n'est pas destiné à l'enfer, hein, destiné à la liberté, à la vie éternelle, extraordinaire. Mais voilà, il nous faut des racines. Donc, en complément, on fait pousser nos racines. Études bibliques, lecture de la parole de Dieu. Puis aussi réaliser, je ne sais pas qu'il y ait quelqu'un prié peut-être comme ça tout à l'heure, que quand on lit cette parole individuellement ou ensemble, eh bien, le Saint-Esprit, il est là, et à nous d'ouvrir notre cœur. Non pas, ah Seigneur, ça j'ai déjà lu, je change. Non, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? C'est une parole qui vient directement de Jésus pour moi aujourd'hui, dans ma situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Et ça, c'est extraordinaire quand même. Hein ? On a quand même un Jésus qui est grand, hein, qui est tellement personnel. Ce qu'il te dit à toi te donne des racines pour ta vie. Étude biblique, dans 1 Timothée 4,13, il est dit « Applique-toi à la lecture. » À quoi t'appliques-tu ? Question ouverte. Et puis dans 1 Jean 2,27, il est dit que l'Esprit-Saint nous enseigne toutes choses à demeurer en Jésus. L'Esprit Saint lui-même t'enseigne la vérité, ce qui est vrai, ce qui est véritable, à demeurer en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il t'a enseigné aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va t'enseigner demain? À noter, à écrire. Troisième terrain. Celui-là, il est vraiment moderne. Il est super, quoi. Enfin, ils sont tous super. Verset 7. Troisième attitude de cœur. Verset 7 et verset 14. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elles et l'étouffèrent. Et puis verset 14. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Intéressant, hein ? Jésus qui parle de cette parole ou de cette graine, cette semence qui se laisse étouffer par les préoccupations, les richesses, les plaisirs de la vie. Waouh ! Moi, je suis ici d'une génération où je suis né en 67, donc c'est quand même encore un peu les Trente Glorieuses. C'était le plaisir en premier quand même, hein, dans ces années-là. On a souffert, enfin nos parents ont vécu la souffrance, la difficulté. Maintenant, on y va, quoi. Hein. Si on peut profiter, on profite. Et c'est inculqué comme ça dans la mentalité. Enfin voilà, je suis français d'origine, c'était inculqué comme ça. Puis alors quand ça va pas, ben on fait des grèves. Parce qu'on a été élevé à mettre le bonheur en premier. Est-ce que c'est faux? Ben quand même en partie, n'est-ce pas? Là, il faut analyser tout cela. Mais le premier, voilà les ronces. J'ai en face de chez nous, en face de chez moi, un terrain qui est là. Et c'est incroyable la hauteur des ronces. Je ne pense pas que ça allait si tôt. Alors, ils n'enlèvent pas les ronces, sauf sur une partie du terrain, mais c'est, je ne sais pas, c'est au moins 2,50 m, 3 m des ronces. Il faut y aller, là. Je ne sais pas comment ils vont faire pour enlever tout ça, mais c'est incroyable. Et ça pique, n'est-ce pas? C'est pas beau, enfin, moi, je trouve. Je ne sais pas si ça fleurit, les ronces, je ne sais rien. Ça fleurit, les ronces? Ah, c'est les murs, hein, ouais. Mais faut y aller. Hein. Enfin, bref, Jésus dit ici que les ronces, c'est des préoccupations, des richesses, des plaisirs de la vie. Il y a un mot-clé dans l'Évangile, c'est qu'en Dieu, on peut trouver une satisfaction. Ouh là là, être satisfait de Dieu. Et là, je ne parle pas du tout des ordres mystiques qu'il y a eu pendant des dizaines et des centaines d'années au sein de l'Église, où on se retirait du monde et puis on était dans une situation extatique, quoi, c'était un peu la drogue de l'époque, n'est-ce pas? On contemplait pendant des semaines une seule image. C'est pas du tout ça, mais c'est trouver une satisfaction et une vie abondante en Jésus-Christ. Et ça, c'est possible. Et ça, il faut creuser peut-être. 1 Timothée 6:6. La piété, l'amour pour Dieu, est une grande source de gain. Tu veux être riche? Alors, sois pieux, c'est-à-dire aime Dieu. Hébreux 13:5, contentez-vous de ce que vous avez. Waouh, contentez-vous de ce que vous avez. Ouais, mais mon iPhone, il va moins bien. Ouais, mais il va quand même. Ouais, mais il charge moins vite. Ouais, mais il va quand même. D'accord. Psaume 37, verset 5, fais de l'Éternel tes délices. Qu'on a bien en Suisse les délices. Fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a bien des années maintenant, dans les études bibliques que nous avions faites, les premières, eh bien, on a un petit peu appris à vivre cette présence de Dieu qui est rafraîchissante et qui comble l'âme, qui satisfait l'âme. Et pendant un certain temps, c'était facile de passer des heures et des nuits dans la prière, tellement sa présence était, on avait soif. Et une envie extraordinaire. Le petit-fils, le témoignage du petit-fils de William Booth, je ne sais pas si vous l'avez lu, j'espère, un jeune homme qui a une telle soif de Dieu et qui va expérimenter le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Et il raconte qu'il était dans une convention missionnaire Et puis, il logeait dans sa chambre avec le missionnaire qui était l'orateur. Et puis, alors lui, je sais pas son prénom, mais il avait soif de Dieu. Et il était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il bougeait sur son lit. Il était secoué comme à la Pentecôte, ivre de l'Esprit-Saint. Et puis le missionnaire, il dit, mais ça suffit maintenant. Il n'arrivait pas à dormir. Donc tellement rempli du Saint-Esprit, tellement comblé par la présence de Dieu. Peut-être que nous, notre génération, on doit apprendre à persévérer et à chercher ces choses-là et à les désirer plus que tout. Amen. Amen. On a découvert la semaine passée, redécouvert, que Charles Spurgeon, qui était un prédicateur anglais-britannique du 19e siècle, il était venu à l'oratoire en juillet 1860. Et son message, qui n'a pas été traduit, mais il a été pris en note, son message c'était « Est-ce que tu cherches Jésus ?» Voilà, alors je le reprends, 130 ans après, non, combien plus ? 1860, je reprends, oui, est-ce qu'on a soif de ce Jésus-là, n'est-ce pas ? Pour ne plus être pris par les ronces et dire « Seigneur, c'est vrai, elle est bien cette série télé. » Bon, peut-être vous ne regardez pas les séries TV, hein ? C'est bien cette série, mais quand même, c'est toi le plus important. J'aime ce hobby, mais quand même, c'est toi que je cherche. Et c'est toi la priorité de ma vie. Merci. Yes. On arrive au quatrième terrain. Donc mettons de côté, les amis, tout ce qui est ronce, tout ce qui est en trop. Quatrième terrain, versets 8 et 15. Celui-là, c'est l'objectif. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle l'eut poussée, elle produisit du fruit au centuple. Elle produisit du fruit au centuple. Donc il n'y a ni pierre, ni oiseaux, ni ronces. Merci beaucoup. Verset 15, l'interprétation. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Portent du fruit avec persévérance. Du fruit au centuple, parce que le cœur est bon et honnête, et puis un peu persévérant. Le cœur est bon, honnête et persévérant. Alléluia, c'est ce que Dieu veut pour nos vies, que nos cœurs soient bons et honnêtes. C'est quoi un cœur qui est malhonnête quand il entend la parole de Dieu ? Je me pose la question. Eh bien, je pense que c'est l'hypocrisie. Jésus a dénoncé l'hypocrisie, hein. On met un masque, le masque du dimanche, en disant « Oui, je mettrai en pratique la parole de Dieu. Promis, Seigneur !» N'est-ce pas ? Un cœur aussi qui est bon et honnête, c'est un cœur qui est sans calcul. « Seigneur, tu dis ça, je vais pouvoir le faire pour toi, mais aide-moi, j'ai besoin de ta grâce pour mettre en pratique cette parole-là. » N'est-ce pas ? Si vous entendez ce message et que vous dites « Ah bah, c'est super ce qu'il dit le pasteur, c'est bien pour telle personne. » Ça, c'est de l'hypocrisie. Ah, vous avez pensé, d'accord ? Ah, c'est bien qu'ils le disent, parce que l'autre, il en a besoin, hein, d'accord ? Hypocrisie, non. Avoir un cœur bon. Alors, dans la parole de Dieu, il y a plein d'exemples de personnes qui ont un cœur bon et honnête. Il y a Marie, il y a Néhémie, le gouverneur. Il a un cœur bon et tendre et honnête. Il dit, OK, je vais mettre en pratique, aide-moi, la parole de Dieu. On va reconstruire, rebâtir cette muraille. Il y a plein d'ennemis qui sont là. C'est une belle image, je trouve, de la vie chrétienne et de la vie en Église. Et puis, il y a cette prière du psaume 51, et je termine avec ça. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Autrement dit, Seigneur, mon jardin, tu le connais, la terre de ma vie, tu la connais, mais crée en moi un cœur pur. Sinon, je vais à droite, à gauche, plein de fois, j'ai laissé tomber la semence et elle n'a pas produit le fruit que tu aurais aimé recevoir. Trop de fois, j'ai été en surface, pas assez en profondeur, où je me suis laissé prendre par des choses de cette vie qui sont parfois, ma foi, bien agréables, etc. Mais Dieu dit, je veux que ça produise du 100 fois plus. J'investis en toi. Et je pense que la clé pour que ça produise 100 fois, voilà, beaucoup, il y a un rendement. Je pense que la clé, c'est de rester tout près de Jésus tout le temps, tout près de lui. Il a dit lui-même, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Donc demeurer, on ne peut pas faire sans lui de toute façon. Et donc si l'état de nos cœurs est en bon état, s'il a pu nettoyer, s'il a pu enlever tout ce qu'il fallait, eh bien la semence va produire du fruit. Ce qu'il est en nous, le témoignage qu'il a mis en nous, l'amour qu'il a mis en nous, va produire du fruit dans notre entourage, dans nos vies, et ça sera tout à sa gloire. Seigneur, je te remercie pour cette parabole que tu nous as donnée, qui est, je trouve, d'une actualité extraordinaire, qui nous montre l'état de nos cœurs, ou l'état d'un cœur. Et Seigneur, ce soir, moi je ne peux que t'apporter mon cœur, ma vie, afin que vraiment elle puisse, déjà que je puisse avoir un cœur qui reçoit bien ta parole, qui soit, comme tu le dis ici, un cœur bon et honnête et qui va persévérer. Seigneur, on a besoin que nos cœurs soient comme ça. Trop de fois ou trop longtemps, ils ont été tordus, ils ont été, tordus par le péché, par les mauvais choix qu'on a pu faire. Mais Seigneur, en 2019, on prie pour qu'il y ait un changement. On prie pour que tu crées en nous un cœur pur. Seigneur, s'il y a eu déjà nouvelle naissance, toi tu le sais, dans la vie de telle ou telle personne. S'il n'y a pas encore eu une nouvelle naissance, régénération, touche ce soir. Touche ce soir, Seigneur, donne ta vie. Donne un cœur neuf. Et puis s'il y a eu, Seigneur, nouvelle naissance, si le terrain était envahi peut-être par les ronces du souci, de la crainte de demain, de ce qu'on pourrait devenir ou ne pas devenir, si le doute nous a terrorisés, si la crainte nous a envahis dans nos pensées, si nous sommes à côté de la plaque, à côté du plan de vol que tu as tracé pour nous à l'avance, aide-nous, Seigneur, à revenir au bon endroit. Donne-nous des cœurs qui soient vraiment pleins de reconnaissance. Et guéris, Seigneur, ce qui guéris et pardonne ce qui nous fait aller à droite ou à gauche, ce qui nous empêche peut-être de produire plus de fruits. Et Seigneur, ce temps qui passe et qui file tellement vite, aide-nous à le rentabiliser pour ton royaume. Aide-nous à vraiment, regarder les bonnes priorités, à les garder plutôt. Aide-nous, Seigneur, à investir dans le royaume de Dieu et dans ce qui est éternel. Montre-nous nos priorités. Montre-nous, bien sûr, l'état de notre cœur, là où il y a besoin de d'ôter les pierres, de déraciner ce qui est à déraciner. Éclaire, Seigneur, nos yeux. Ouvre nos yeux. Nous en avons besoin. Et nous te le demandons ce soir, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.